Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principes Actifs. Donc, c'est Amnesty International pour sa première émission du mois de novembre. Parce que nous sommes le mardi 16 novembre. Donc, une heure d'antenne pour parler de l'actualité des droits humains, des campagnes d'Amnesty par rapport à tout ce qui touche aux droits humains, etc., etc. Mais enfin, je pense que depuis le temps qu'on anime les émissions sur l'antenne de Principes Actifs, ça fait quand même quelques années maintenant, vous nous connaissez. Pour animer l'émission avec moi ce soir, il y a alors en direct, il y a Claire Lise.
Bonsoir.
Et il y a, pas dans le studio, mais elle nous a envoyé quelques enregistrements, Edith. Donc nous aurons le plaisir de l'écouter tout à l'heure grâce à des audios qu'elle nous a envoyés. Voilà. Et pour commencer l'émission, ben je vais tout de suite donner la parole à Claire Lise, parce qu'on va commencer l'émission sur différents sujets qui touchent une actualité très brûlante dans tous les sens du terme et qui concerne la situation des migrants et des réfugiés dans différents pays, parties du monde. Voilà, et y compris chez nous. Donc Claire Lise.
Eh bien écoutez, on n'a pas souvent l'occasion de se réjouir, surtout avec l'actualité, comme dit Didier, qui est vraiment très brûlante et très prenante et très préoccupante. Ceci dit là, je voulais crier victoire avec vous, puisque lors de notre dernière émission, nous vous avions invité à signer une pétition, c'était pour la régularisation d'une maman pakistanaise et de ses 4 filles, donc Agaillon, qui était menacée d'expulsion. Et puis on vous avait parlé effectivement de ces 4 jeunes filles qui risquaient, de si elles retournaient dans leur pays, de pas pouvoir être scolarisées, faire des études et choisir une vie de femme, comme on l'entend ici. Victoire. Donc cette pétition a abouti avec 15 532 signatures. Et je dois vous dire que lors de l'émission, je vous avais dit le nombre de signatures qu'on avait pendant l'émission. Et puis j'avais regardé chez moi au retour et il y avait eu un petit bond de cabris quand même pendant l'émission. Donc merci pour ceux qui ont signé la pétition. Vous avez contribué à cette victoire. Donc c'est un soulagement, c'était une mobilisation populaire inédite par son ampleur qui aura permis d'alerter le préfet de l'Eure sur la situation à Gaillon de cette maman pakistanaise et de ses 4 filles. Déboutées de leur demande d'asile, privées de ce fait de tout droit à un toit et aux moyens de leur subsistance, elles étaient menacées d'un retour au pays où exactions et mariages forcés des jeunes filles les attendaient. Un grand merci au comité de soutien, donc à cette famille, donc composée de Un Toit Sous la Main, de l'ACIMAD 27, du Secours Catholique, l'antenne de Gaillon, du Réseau d'éducation sans frontières 27, de l'association Nous Toutes, de l'association des parents d'élèves de l'école Paul Doumer de Gaillon, de l'association des parents d'élèves du collège Georges Amboise de Gaillon et à Yolande Moreau, actrice réalisatrice du documentaire Nulle part en France. Donc ce soutien exceptionnel de la population de tout le département s'est donc manifesté pour ces 5 exilés. Mais si la solidité de notre engagement citoyen a été déterminante, c'est aussi et surtout la situation particulière de la famille au regard du parcours institutionnel lié à la demande d'asile et les éléments nouveaux que nous avons pu apporter qui ont permis au préfet de lui délivrer un droit au séjour à titre exceptionnel. Je vous rappelle le témoignage vraiment poignant de la jeune fille de 16 ans. Enfin, moi, j'en avais les larmes aux yeux quand je vous le lisais à l'antenne. Et tout ça, ça a été porté à la connaissance du préfet qui, habituellement, ne fait pas de régularisation à titre humanitaire. Mais là, à titre exceptionnel, il a accepté de régulariser la famille. Donc, le collectif le remercie pour son écoute, sa disponibilité et pour la rapidité avec laquelle il a rendu sa décision. Délivrant ainsi la famille des jours d'incertitude et de terreur dans laquelle elle était plongée. Nous n'oublions pas pour autant tous les autres demandeurs d'asile en situation d'impasse, en situation précaire, sans hébergement. Et nous continuons à sensibiliser nos concitoyens à l'inhumanité de leurs conditions et à faire vivre par nos actions solidaires les principes humanistes et républicains. Donc voilà, et merci aussi à Élodie Regla, donc, qui est une enseignante hein, d'une des jeunes filles et qui avait lancé la pétition sur change.org. Et donc je vous rappelle, 15 532 signatures. Je pense que c'est aussi un petit peu le battage médiatique et cette pétition largement signée qui a fait plier le préfet.
Ce qui nous fera dire encore une fois que quand on s'associe pour lutter, effectivement, eh bien c'est comme ça qu'on arrive à obtenir des choses, c'est clair.
Voilà.
Bon, mais pour une bonne nouvelle locale et très importante, comme tu viens de le dire, pour cette famille Saber, malheureusement, la situation des droits humains, la situation des migrants et des réfugiés et des droits humains qui en découlent n'est pas toujours aussi positive. Ouais. Et je crois que tu as d'autres informations qui sont un petit peu moins gaies.
Bah, écoute, quand j'étais dans la voiture pour venir pour l'émission tout à l'heure, j'ai écouté la radio et j'ai écouté démantèlement d'un camp de migrants à Grande-Synthe. Voilà,
oui.
Aujourd'hui.
J'ai entendu aussi.
Donc,
oui.
Ça continue. Hein. Donc, il y a 15 jours, on vous avait aussi invité à signer une pétition pour les grévistes de la faim à Calais. Donc, cette pétition a obtenu aujourd'hui 53 663 signatures. Mais elle est toujours suivie, donc, cette grève de la faim, par deux militants associatifs, donc Anaïs Vogel et Ludovic Holbein, qui ont entamé leur 36e jour de grève de la faim. Aujourd'hui, ils mettent leur vie en danger pour dénoncer le traitement inhumain réservé aux personnes exilées. À travers une lettre ouverte adressée aujourd'hui au président Emmanuel Macron, nous réitérons notre soutien à leurs revendications et en appelons collectivement, avec 15 associations nationales et le soutien de plus de 45 associations locales de la société civile, au sens des responsabilités et à l'humanité de nos responsables politiques. Depuis maintenant 36 jours, Anaïs et Ludovic ont cessé de s'alimenter pour demander le respect de la dignité et des droits des personnes exilées à Calais. Chaque jour, au nom d'une politique qui vise à dissuader les personnes exilées de transiter par Calais, notre gouvernement franchit des lignes rouges. Chaque jour, il met la France dans l'illégalité et renie ses valeurs en traitant ces personnes de façon inhumaine et dégradante. Il a fallu que 3 citoyens s'engagent dans une grève de la faim pour briser le silence assourdissant dans lequel ce drame se poursuit sur notre sol. Donc, nous demandons le soutien aux revendications des grévistes de la faim à Calais. Nous soutenons pleinement les 3 revendications présentées par les grévistes, à savoir la fin des expulsions quotidiennes sur Calais, la fin de la destruction des effets personnels des personnes exilées pendant la trêve hivernale et l'ouverture d'un dialogue raisonné et constructif entre les pouvoirs publics et les associations non mandatées par l'État sur la distribution de biens de première nécessité. Ces revendications, pourtant très élémentaires, n'ont pas encore été prises en compte. Alors, les annonces par le gouvernement de l'instauration d'un préavis de 45 minutes avant les expulsions et la création d'un SAS pour 300 personnes avec une orientation vers des hébergements loin de la frontière britannique ne sont pas à la hauteur et ne remettent quasiment pas en cause les traitements inhumains et dégradants infligés quotidiennement aux plus de 1000 personnes exilées vivant dans le Calaisis. C'est pourquoi, collectivement, avec 15 associations nationales et le soutien donc de plus de 45 associations locales de la société civile, nous adressons une lettre ouverte au président Emmanuel Macron pour lui demander un rendez-vous en soutien aux revendications des grévistes de la faim à Calais. Depuis près de 30 ans, le choix prioritaire de la dissuasion, y compris par la force, n'a jamais eu pour autre effet que d'exacerber la souffrance humaine, d'aggraver les atteintes aux droits humains et accentuer l'épuisement des défenseurs des droits humains, citoyens et citoyennes fidèles aux principes républicains de fraternité. La situation qui prévaut à Calais, à Grande-Synthe et plus généralement sur le littoral de la Manche et la mer du Nord, impose qu'une réponse gouvernementale positive soit apportée au plus vite aux demandes minimales formulées. Des solutions peuvent être et doivent être apportées à cette situation. Elles doivent s'ancrer dans le respect effectif des droits humains des personnes exilées et elles impliquent un engagement politique sur un temps long et l'ouverture d'un dialogue raisonné associant personnes exilées, associations et pouvoirs publics. Donc, juste pour vous redire quand même, les associations nationales qui sont signataires de cette lettre, donc qui a été envoyée aujourd'hui au président Macron, c'est Amnesty International France, ATD Quart Monde, CCFD Terre Solidaire, excusez-moi.
CCFD ouais. Terre Solidaire.
Oui, voilà. La CIMAD, le collectif des associations de soutien aux personnes exilées de Calais, donc l'Auberge des Migrants, Salam Nord-Pas-de-Calais, Utopia 56, Emmaüs France, la Fédération Entraide Protestante, la Fondation Abbé Pierre, excusez-moi, je tourne une page, Human Rights Watch. JRS France, la Ligue des Droits de l'Homme, Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, Oxfam France, Secours Catholique Caritas France. Et il y a aussi le soutien des associations nationales et internationales, donc les avocats pour la défense des droits des étrangers, le collectif national des droits de l'homme Rome Europe, les états généraux des migrations, Emmaüs International, Logisti, le MRAP, RESF, SAF Passage France, le Service National Mission Immigration et toutes les associations régionales et locales. Je ne peux pas les nommer tous parce que c'est un petit peu long, mais il y a 45 associations en France. J'alerte aussi sur la situation dans les Alpes. Il y avait à nouveau un appel à pétition, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est à la frontière italienne.
Briançon,
voilà, c'est ça. Où il y a aussi des migrants dans des situations inhumaines. Voilà, donc la situation, elle est loin de s'arranger. Et puis, j'ai écouté... à la télé, un petit reportage humoristique sur nos amis les Républicains, ceux qui veulent se présenter à la présidence de la République. Ils devaient élire entre eux qui représenterait les Républicains. Ils sont une dizaine, hein, c'était à qui se ferait la course à l'échalote contre les migrants en réponse au parti d'extrême droite. Voilà. Et il n'y en a pas un qui revenait un petit peu sur terre en parlant de dignité et d'accueil. Au contraire, ils se dédisaient par rapport à leurs propres engagements et d'il y a 4 ans.
Bien sûr, ça c'est
tous.
C'est toujours la politique du bouc émissaire. Il faut trouver des coupables. Hein. Donc, bien évidemment que les droits des migrants sont des droits humains et que ce ne sont pas des coupables. C'est exactement l'opposé. Enfin, c'est très facile de chercher des coupables. Et comme dit le proverbe, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Donc, évidemment, voilà, c'est autant de processus qui sont malheureusement trop bien connus dans la démagogie des responsables politiques.
T'as vu, j'ai essayé de rester correct en parlant de ces gens.
Mais tu es très correct.
Oui, parce que tout à l'heure, je te l'ai expliqué de façon plus imagée.
Oui, avant l'émission, c'était pas tout à fait le même vocabulaire, mais on aura très bien compris ce que tu voulais dire. Pour terminer sur ce petit chapitre consacré à différentes informations sur les droits des réfugiés et des migrants, je voulais vous donner, moi, deux autres informations assez rapides. Par rapport à la situation qui fait aussi la une de l'actualité, c'est-à-dire la situation absolument épouvantable de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Donc, bon, on sait très bien que monsieur le dictateur de Biélorussie utilise des migrants comme une arme de combat contre l'Europe. Enfin, ça, vous avez toutes les informations à la télévision et sur les grandes chaînes de radio. Donc, on va pas revenir là-dessus. C'est absolument, là aussi, sur un plan moral et sur un plan humain, absolument épouvantable. Mais enfin, venant de la part d'une personne comme lui, on est tous sauf surpris. Et donc, Amnesty International, alors pour l'instant, n'a pas publié grand-chose parce que il est très difficile à l'heure actuelle d'enquêter de façon très précise sur ce qui se passe réellement sur cette frontière, puisque les ONG n'ont pas accès à cette zone et sont gardées à plus de 10 km des zones concernées, et qu'Amnesty, effectivement, se base principalement sur ses propres recherches pour étayer ses communiqués et ses dossiers. Mais j'ai quand même trouvé, effectivement, un communiqué de Jean-Claude Samouilly, Boulier, qui est le vice-président d'Amnesty International France, qu'il a donné à, une information qu'il a donnée à Radio France, et il dit les choses suivantes. Nous demandons à la Biélorussie et à la Pologne de permettre l'accès aux zones frontalières bloquées. Les ONG... excusez-moi, parce qu'il y a c'était en deux parties. Alors que des milliers de migrants sont acheminés par la Biélorussie aux portes de l'Union européenne au niveau de la frontière avec la Pologne, les ONG, les observateurs et les journalistes ne peuvent pas pénétrer dans cette zone. Nous ne savons pas réellement ce qui s'y passe. Amnesty International demande à la Biélorussie de permettre à ces personnes de déposer une demande d'asile et de respecter la libre circulation pour ces personnes qui sont empêchées de quitter la zone frontalière. L'ONG, donc Amnesty, demande également à la Pologne l'arrêt des refoulements violents et illégaux. Le contexte politique ne peut justifier un cas des violations des droits humains des personnes. La majorité de migrants aujourd'hui à la frontière polono-biélorusse sont des Kurdes, des Irakiens ou des Syriens. Ces personnes ont droit à une protection internationale et au statut de réfugiés après analyse approfondie de leur situation. C'est pour cela qu'on ne peut pas refouler les personnes sans avoir écouté leur situation. Enfin, Amnesty International demande à l'Union européenne de contester les mesures d'état d'urgence et les amendements législatifs pris en Pologne, en Lettonie et en Lituanie. Ces pays autorisent des refoulements illégaux. Bruxelles est également invité à prendre des mesures de solidarité pour relocaliser les personnes arrivées sur le territoire polonais. Ce ne sont que quelques milliers de personnes, pas des flux migratoires que nous avons connus en 2015. Donc voilà le communiqué que j'ai trouvé de la part du vice-président d'Amnesty France. Et juste alors quelques mots effectivement sur en préparant l'émission, j'ai fait des recherches aussi sur les sites d'Amnesty. Et par rapport à ce qui s'était passé au communiqué sur la situation entre la Biélorussie et la Pologne et tout ce qui s'y passe à l'heure actuelle, et j'ai retrouvé un communiqué qui date du 30 septembre, donc qui n'est pas très récent, mais déjà Amnesty à l'époque s'inquiétait de la situation. Alors je vous lis simplement les premières lignes. Une enquête numérique menée par Amnesty International relève des informations jusqu'ici ignorées sur la situation de 32 demandeurs et demandeuses d'asile afghans, à savoir 4 femmes, 27 hommes et une adolescente de 15 ans, bloquées à la frontière entre la Pologne et le Bélarus, sans nourriture ni eau potable, sans abri ni médicaments. Depuis le 18 août au moins, s'appuyant sur des images satellites et des photographies pour mesurer les superficies et opérer des reconstructions 3D, Amnesty International a pu établir la position du groupe à la frontière et a conclu que fin août, le lieu où celui-ci se trouvait avait changé dans la nuit de la Pologne au Biélarus, semble-t-il, dans le cadre d'un renvoi forcé illégal. D'après la reconstruction, réalisée le 18 août, la plupart de ces 32 personnes qui étaient entrées en Pologne depuis le Biélarus se trouvait côté polonais de la frontière, cernée par les gardes frontières polonais. Cependant, le lendemain, elles étaient de retour côté bélarussin. Amnesty International estime que ce mouvement peut constituer la preuve d'un renvoi forcé illégal, ce qu'on appelle un pushback en anglais, puisqu'il semble être survenu alors que les gardes frontières armés polonais encerclaient le camp de fortune des réfugiés. Le 20 août, les 32 Afghans bloqués à la frontière ont déposé des demandes de protection internationale en Pologne avec l'aide d'avocats montrant leur souhait de rester en Pologne. Bon alors, ça c'est tout simplement le début du communiqué. Pourquoi je vous en parle? C'est qu'en fait, depuis effectivement le début de la crise à cette frontière, on assiste effectivement à un déni du droit international, puisque les personnes qui veulent passer en Pologne, bon, on sait maintenant qu'elles sont bloquées manu militari derrière des barbelés et avec un nombre impressionnant de soldats polonais qui les empêchent de passer, ce qui là aussi est parfaitement contraire au droit international, aux engagements de la Pologne et aux engagements de l'Union européenne dont fait partie la Pologne, mais que déjà donc au mois d'août dernier, Amnesty International avait mené une enquête via des photographies par satellite qui s'inquiétait effectivement de ce genre de procédé de refoulement de réfugiés afghans via l'État de Biélorussie pour vouloir et qui voulait passer en Pologne. Donc la crise n'a rien de récent, elle date depuis l'été dernier, elle s'est largement amplifiée et de toute façon toutes les mesures de blocage à la frontière qui sont pris par les autorités polonaises ne peuvent qu'envenimer la situation et n'apporter absolument aucune réponse à ces gens, même qui viennent d'Afghanistan, de Syrie, du Liban, enfin, etc. Même si on sait très bien que maintenant, il y a un véritable trafic d'êtres humains, puisque ces gens ont été invités à venir par le dictateur et les autorités de Biélorussie. Loukachenko, je crois qu'il s'appelait, le dictateur. Oui. Voilà. Et donc, effectivement, c'est une véritable situation de trafic d'êtres humains, contre lequel, effectivement, Amnesty s'oppose et s'indigne depuis de nombreuses années. Et ce sera ma conclusion pour l'instant. Sur cette situation, quand un certain nombre de politiques parlent que les ONG, entre guillemets, qui défendent les droits des migrants et des réfugiés font appel d'air, l'appel d'air véritable, en fait, dans la situation présente, il n'est pas du tout dû aux ONG, il n'est jamais dû aux ONG, mais là, il est dû, bien évidemment, directement à la politique absolument déplorable sur un plan moral, pour ne pas dire plus, de ce monsieur Loukachenko. Voilà.
Honte à nos fameux candidats à la présidentielle républicains qui pensent que c'est bien d'ériger des murs et qu'il faut protéger la Pologne des migrants et protéger l'Europe. Voilà, leurs arguments, honte à eux parce que c'est contraire au droit international.
Tout à fait. On va s'interrompre quelques instants pour vous passer à la première pause musicale et on se retrouve juste après.
We are the amputee, cut off at our knee. Something's tickling at our feet. No more the sufferer, the dull set of us. Once our heels they clapped in the street. I miss you so bad. The price set aside, our love and our hate, smooth and shine. No more extremity, no more possibility. Like forgotten skittles, we wait for our stride. I miss you so bad.
Retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International, pour la suite de son émission sur les droits humains. Et on va vous parler, on vient d'écouter effectivement un morceau d'un groupe Tindersticks, c'est un groupe que j'aime beaucoup moi personnellement, et le morceau s'appelle The Amputees. Donc on va c'est Claire Lys qui va reprendre la parole tout de suite pour vous parler d'un sujet qui a fait la une de l'actualité toutes ces dernières semaines, c'est-à-dire le véritable scandale de la COP26.
Eh ben, c'est vrai que je disais à Didier que en arrivant tout à l'heure pour l'émission, j'étais un peu déprimée et j'avais les boules parce qu'il y a quand même beaucoup de nouvelles qui nous affectent beaucoup et notamment l'échec de la COP26, hein, qui est l'échec des leaders mondiaux et c'est vraiment scandaleux. Moi, j'ai été touchée, enfin quand j'ai vu le communiqué final. Le secrétaire qui a lu le communiqué final, quand même, il a éclaté en sanglots en lisant à la fin. Oui. Parce qu'il y a eu, quand même des multinationales qui ont réussi à prendre le dessus et au lieu de parler d'élimination de l'utilisation des énergies fossiles, ils parlent de diminution, ce qui n'est pas du tout la même chose et ce qui change complètement la donne et c'est tout à fait scandaleux. Ça fait écho aussi avec, je disais à Didier, avec un reportage qui est repassé à la télé, alors cette nuit, je ne sais plus sur quelle chaîne, qui s'appelle Home. Et alors, on se disait que c'était peut-être d'Artus Bertrand. C'était vraiment un très, très beau reportage qui date d'il y a quelques années sur la situation du monde et sur, petit à petit, les effets dévastateurs des politiques industrielles et des choix de société sur l'environnement et sur le futur. Et ça faisait complètement écho avec, je pense qu'ils en ont fait exprès de repasser ce film, ça faisait vraiment écho avec tous les dangers à venir et que malheureusement, cette COP26 n'aura pas réussi à éliminer. Donc les leaders du monde ont trahi l'humanité en ne protégeant pas les personnes les plus touchées par la crise climatique. C'est un bilan catastrophique de la COP26. La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques n'a pas abouti à un accord qui protège la planète et ses habitants. Au contraire, elle a trahi les fondements mêmes sur lesquels les Nations Unies ont été bâties. Un engagement premier, non pas envers les pays ni les États, mais envers les populations. Tout au long de leurs négociations, nos dirigeants ont fait des choix qui ignorent, sapent ou négocient nos droits en tant qu'êtres humains. Trop souvent, ils ont relégué les communautés les plus marginalisées au statut de dommages collatéraux non indispensables. Un demi-milliard de personnes sont condamnées. L'incapacité des leaders mondiaux à s'engager à limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré condamnera plus d'un demi-milliard de personnes. Vagues de chaleur et pénuries d'eau frapperont davantage les pays du Sud, comme c'est déjà le cas à Madagascar ou en Ouganda, par exemple. Malgré ce scénario catastrophique, les pays riches n'ont pas engagé de fonds destinés à indemniser les communautés subissant des pertes et dommages liés au changement climatique. La pression des entreprises d'énergie fossile, donc c'est une amère déception de voir les nombreuses failles de l'accord de la COP26 qui s'inclinent devant les intérêts des compagnies d'énergie fossile plutôt que devant nos droits. L'accord n'appelle pas à l'élimination progressive de tous les combustibles fossiles et de toutes les subventions aux énergies fossiles, illustrant le manque d'ambition et d'action audacieuse nécessaire en cette période critique. De plus, l'accent a été mis sur la compensation carbone sans prendre des mesures adéquates de protection de l'environnement et des droits humains. Ainsi, les pays riches ont oblitéré la menace qui pèse sur les peuples et les communautés autochtones. Ces dernières risquent d'être expulsées de leurs terres pour laisser place à des programmes de compensation carbone. Il s'agit d'un substitut creux et inacceptable aux objectifs de zéro émission. Les décisions prises par nos dirigeants à Glasgow ont de graves conséquences pour notre humanité. Il est clair qu'ils ont oublié au service de qui ils sont, les populations. Nous devons donc nous rassembler pour leur montrer ce qui peut être réalisé. Nous devons nous unir pour appeler nos gouvernements à prendre des mesures ambitieuses relatives au changement climatique, axées sur les personnes et les droits humains. Donc si nous ne luttons pas corps et âme pour faire face à cette menace existentielle pour l'humanité, nous perdrons tout. Voilà, donc c'est un communiqué d'Amnesty France. C'est une très très amère déception face à cette COP26 qui était vraiment catastrophique et qui est vraiment... J'ai plus le mot.
C'est pas radiophonique, je peux pas vous décrire la moue que vient de faire Claire Lise, mais c'était tout à fait évocateur, donc effectivement.
Ouais, c'est... parce que je me retiens des fois, j'ai les larmes aussi qui me viennent, parce que je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Mais bon, quand on voit nos représentants, quand on les envoie, bon, on se dit, ils vont pas changer, hein.
C'est ça,
malheureusement.
En gros, c'est un exemple de plus, ce qui vient de se passer à la COP26, c'est un exemple de plus que nos responsables politiques sont, comment dire, j'allais dire manipulés, c'est pas le terme, mais sont aux ordres des principaux groupes de pression économique, des industries extractives, enfin, etc., et de l'immense pouvoir financier de ces structures-là. Juste un petit rappel, hein, ce ne sont pas des chiffres d'Amnesty, ce sont d'autres ONG qui ont établi ces chiffres-là, mais qu'Amnesty utilise aussi. C'est un petit rappel, 70% des gaz à effet de serre, donc qui sont responsables en premier lieu du réchauffement climatique, 70% des gaz à effet de serre sont dus aux énergies fossiles et qui elles-mêmes sont utilisées très majoritairement par les 100 plus grandes multinationales dans le monde. C'est-à-dire que 70% des catastrophes qui sont en train d'arriver sont directement redevables aux 100 plus grandes multinationales dans le monde. Voilà. Et on sait effectivement qui est-ce qui dirige les instances politiques mondiales. Ce ne sont pas les gens qu'on a élus. Voilà, et juste une autre petite information, alors on va continuer la chronique en vous en écoutant un petit son que nous a envoyé donc Edith, on vous le disait tout à l'heure, qui n'est pas là, mais qui nous a envoyé quelques infos, et c'est elle aussi va parler de la COP26 et des attentats dont sont victimes les défenseurs de l'environnement en Colombie. Mais juste une petite info avant de lui laisser la parole, c'est de vous rappeler aussi un dossier que vous allez trouver sur le site d'Amnesty, qui est paru là très récemment, le mois dernier, sur la famine dans le sud de Madagascar, qui est très directement imputable au changement climatique, parce que cette région du monde subit des sécheresses à répétition de plus en plus dramatiques. Donc le rapport, je vous laisserai le lire, il s'appelle « Il sera trop tard pour nous aider quand nous serons mort, je rappelle le titre, il sera trop tard pour nous aider quand nous serons morts, et que juste deux chiffres extraits de ce rapport, 1,14 million personnes sont confrontées, décidément ce soir j'ai un peu de mal à parler, un niveau élevé d'insécurité alimentaire, et 14 000 personnes sont en état de catastrophe alimentaire très prononcée, c'est-à-dire sont en train de mourir de faim. Donc allez sur le site d'Amnesty, je vous rappelle le titre du rapport sur le drame qui est en train de se jouer à Madagascar, il sera trop tard pour nous aider quand nous serons morts.
Et il y a aussi une pétition en faveur de l'Angola, oui. Une aide vitale pour des millions de personnes sous-alimentées, donc là c'est pas moins de 6 millions de personnes qui sont sous-alimentées dans le sud de l'Angola. Elles sont victimes à la fois des effets dévastateurs du dérèglement climatique et de l'affectation de terres à l'élevage commercial de bétail. Donc la situation dans les provinces de Luilla et de Cunene était déjà précaire avant la sécheresse. L'insécurité alimentaire s'est aggravée en partie à cause de cet accaparement des terres. Pour survivre, les populations pastorales n'ont d'autre choix que de fuir. La faim les a conduits par milliers de personnes à se déplacer et à traverser la frontière avec la Namibie, abandonnant tout derrière eux. Donc la situation dans le sud de l'Angola nous rappelle cruellement que le dérèglement climatique est une réalité et cause déjà des souffrances et des décès. Ensemble, nous allons exiger du président angolais de fournir urgemment une aide alimentaire aux populations sous-alimentées et de leur rendre leurs terres.
Voilà, donc on passe ta parole tout de suite à Edith et on se retrouve juste après.
La COP26 vient de se terminer. Et même si les résultats obtenus ne nous semblent pas à la hauteur au vu de l'urgence climatique, tous les participants à Glasgow sont rentrés chez eux sains et saufs. Mais défendre l'environnement dans certains pays, c'est aussi risquer d'être assassiné. Amnesty nous fait part d'une statistique sur l'année 2020 qui nous dit que 227 défenseurs de l'environnement ont été assassinés dans le monde en 2020. Les Colombiens et notamment les Indiens ont payé le plus lourd tribut. La Colombie a battu son macabre record de 2019, avec 65 activistes et leaders communautaires tués en 2020. Le pays arrive cette année-là encore en tête des États où les défenseurs de l'environnement ont payé de leur vie leur engagement. Alors, ces chiffres sont révélés par une organisation non gouvernementale, Global Witness, dans un rapport intitulé « Dernière ligne de défense ». Le sous-titre « Les industries à l'origine de la crise climatique et les attaques contre les défenseurs de la Terre et de l'environnement ». Ce sous-titre-là désigne explicitement les responsables de l'hécatombe. L'exploitation du bois, la construction des barrages, l'agro-industrie et l'exploitation minière sont en effet les secteurs liés à la majorité des assassinats. La demande de profit toujours plus élevée, au coût le plus bas possible, semble toujours se traduire à la fin par l'idée que ceux qui entravent les projets doivent disparaître, a commenté l'environnementaliste américain Bill McKibben, cité dans ce rapport. Et parmi les défenseurs, souvent qualifiés, non sans ironie, d'opposants au développement par les grandes entreprises et les politiciens locaux, les représentants des peuples autochtones constituent un tiers des victimes colombiennes en 2020. C'est pas vraiment une surprise, car ces défenseurs de l'environnement sont aussi les moins protégés par les modestes programmes de protection mis en place par le gouvernement colombien. Et la pandémie de Covid n'a fait qu'empirer la situation, car durant les périodes de confinement, les militants menacés sont restés chez eux, devenant ainsi des cibles faciles pour leurs assassins, explique Global Witness. D'autant que les mesures de protection ont été suspendues par le gouvernement durant cette période. Selon Global Witness, les programmes de substitution des cultures de coca figurant dans les accords de paix signés en 2016, ont été à l'origine aussi de 17 des 65 homicides en 2020. Les victimes sont des populations rurales, coincées entre l'injonction de l'État d'en finir avec les cultures illicites et les organisations criminelles et paramilitaires qui en tirent de juteux profits. Il y a eu une augmentation des menaces envers les collectivités rurales pour leur soutien ou leur participation à ces programmes de substitution de culture, indique aussi ce rapport. Alors, je vous rappelle, sur les 217 défenseurs de l'environnement assassinés dans le monde, la plupart l'ont été en Amérique latine. Triste situation.
Donc on va tout de suite redonner la parole à Edith, toujours via ces enregistrements, puisqu'elle nous a aussi envoyé quand même, pour être un petit peu plus positif dans la suite de l'émission, elle nous a envoyé deux bonnes nouvelles. Donc Edith, c'est à nouveau à toi.
Bonne nouvelle. Au Mexique, l'avortement n'est plus un crime. La Cour suprême mexicaine a jugé inconstitutionnel, le 7 septembre dernier, les articles criminalisant l'interruption volontaire de grossesse, IVG, dans le code pénal de l'État de Coahuila. Cette décision des juges fait jurisprudence dans l'ensemble du pays. Le Mexique est en effet un pays fédéré où les États sont autonomes. S'il ne s'agit pas encore de légalisation de l'avortement, grâce à ce jugement historique, les femmes qui vivent dans des États où l'avortement est criminalisé pourront accéder à l'IVG sur décision d'un juge.
Et donc, nous allons tout de suite redonner la parole de nouveau à Edith pour sa deuxième bonne nouvelle.
Alors, une autre bonne nouvelle en Suisse, mariage pour tous. Les Suisses se sont prononcés à 64% en faveur du mariage pour tous. Tous les cantons du pays, y compris les plus conservateurs, ont voté pour. Les premiers mariages entre couples de même sexe devraient pouvoir avoir lieu à partir du 1er juillet 2022. Ce vote signifie que le mariage et les droits qui l'accompagnent, notamment celui d'adopter des enfants et d'accéder à la médecine reproductive, seront enfin ouverts à tous les couples en Suisse. C'est une étape importante vers l'égalité tant attendue, a déclaré Alexandra Karl, directrice d'Amnesty Suisse. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Edith, pour ces informations et ces bonnes nouvelles. Effectivement, c'est toujours important aussi d'avoir des bonnes nouvelles. Et avant de passer à la dernière partie de notre émission, on va vous parler à nouveau beaucoup de ce qui se passe localement et entre autres de violences faites aux femmes. Et vous en saurez plus tout à l'heure, surtout ne quittez pas l'écoute. On va réécouter quelques instants de musique et on se retrouve juste après.
Cause it rules the earth. He can do with it whatever he please. And if things don't change soon, he will. Oh man, isn't that it is done. Her step while touching the moon. Now there's a woman on my block. She just sits there. As this night goes still, say, who's gonna take away?
Who's gonna take away?
Who's gonna take away?
Who's gonna take away?
His license to kill. But now they take him and they teach him, and they grow him for life, and they set him on a path where he's bound to get ill. Well, they bury him with stars, sell his body like they do his cars. Now there's a woman on my block, just sits there, facing the hill, saying, who's gonna take away?
Who's gonna take away?
Who's gonna take away? Life's now he's hell-bent for destruction. He's afraid and confused, and his brain has been mismanaged with great skill. In his eyes that just tell him lies. But there's a woman on my block,
sits there
in a cold chill, saying who's gonna take away?
Who's gonna take away?
Who's gonna take away?
Who's gonna take away?
His life's a secret. Noise make a spirit, make a heart break. Leave no stone unturned. Maybe an actor in a plot that might be all.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International, on vient d'entendre sur le disque de soutien à Amnesty de reprise des chansons de Bob Dylan, un disque qui s'appelle Chimes of Freedom. un titre qui s'appelle License to Kill, donc une chanson de Bob Dylan, et dont le refrain, et ça fait l'enchaînement avec ce qu'on va vous passer juste après, dont le refrain en fait précise que c'est par rapport aux tous les gens qui possèdent des armes aux États-Unis et qui se livrent à des assassinats en veux-tu en voilà, pourrions-nous dire, et dont le refrain dit effectivement qui va leur retirer leur permis de tuer. Voilà. Et donc, Edith nous a effectivement renvoyé encore un autre son qu'on va vous passer tout de suite et qui est consacré à un livre qui vient d'être publié et qui parle des ventes d'armes françaises. Mais je ne vais pas vous en dire plus, c'est elle qui va vous en parler.
Un commerce qui ne connaît pas la crise. C'est le titre d'un article qui est paru dans la chronique d'Amnesty ce mois-ci. Et je vais vous en parler un peu plus longuement. Alors, voici son sous-titre. Si on commence à ne vendre des armes qu'aux pays démocratiques, on ne va pas en vendre beaucoup. La citation de l'ancien ministre de la Défense, Hervé Morin, résume les raisons qui ont présidé à l'écriture de ce livre, « Vente d'armes, une honte française ». Oui, on va parler du commerce des armes de la France. Alors, dernièrement, le sujet, c'était la rupture de contrat avec l'Australie. Là, les médias en ont parlé, on s'est bien rendu compte que la France ne plaisantait pas avec la vente d'armes, mais d'autres transactions opérées par la France depuis un demi-siècle se déroulent loin des projecteurs, dans une totale opacité, surtout quand elles concernent des livraisons d'armes aux régimes les plus répressifs de la planète. C'est ce que nous rappelle l'essai « Vente d'armes, une honte française » écrit à quatre mains par Émeric Éloin, juriste en droit international public, responsable armes et peine de mort à Amnesty International, et Sébastien Fontenelle, journaliste indépendant. Alors l'ouvrage décortique la mécanique parfaitement huilée qui a propulsé la France au troisième rang mondial des vendeurs d'armes. Les auteurs commencent par dépoussiérer les raisons ayant poussé les Français à vendre ces matériels à des pays peu recommandables. Alors les pays développés, spécialement ceux de l'Alliance Atlantique, sont une chasse gardée des États-Unis. Par conséquent, la France doit se trouver de nouveaux débouchés. Et parmi la clientèle qu'elle va se constituer figure hier, l'Afrique du Sud et son régime d'apartheid, l'Espagne de Franco, la Grèce des colonels et aujourd'hui l'Égypte du dictateur Al-Sisi, l'Arabie Saoudite, responsable de la pire crise humanitaire au Yémen. Il nous remémore les promesses des présidents français qui, de Mitterrand à Hollande jusqu'à Macron, ont toujours promis, juré, qu'en cas d'accession au pouvoir, ce commerce mortifère ferait l'objet d'une transparence totale. Il raconte également comment s'organise ce business, comment la France ignore les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et piétine le traité sur le commerce des armes, tout en méprisant le travail des parlementaires, comment elle snobe les rapports des ONG tels Amnesty International, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, la CAT, ou menace des médias indépendants, disclose. Le livre épingle en particulier le rôle du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ou encore les mensonges de la ministre des Armées, Florence Parly, sur l'emploi d'armes françaises au Yémen. En vulgarisant les ventes d'armes françaises, Émeric Éloin et Sébastien Fontenelle nous mettent face à nos responsabilités, car ce commerce est effectué en notre nom, au prétexte extraordinairement cynique de la défense de nos intérêts. Comme il le souligne en guise de conclusion, la moquerie a assez duré.
Voilà, de retour sur l'antenne de Principe Actif. Donc, merci Edith pour toutes ces interventions. Et on va terminer l'émission parce qu'on s'approche effectivement, enfin il nous reste encore quelques minutes, mais on s'approche du terme de l'émission et on va vous parler d'une actualité locale, mais je crois que Clarlys, tu voulais introduire un petit peu le sujet.
Oui, donc c'est une on va avoir une actualité locale, mais elle est aussi nationale. Donc il y a en fait une invitation d'Amnesty International à quelques jours de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Amnesty International France marchera aux côtés du collectif Nous Toutes et de nombreuses associations féministes pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles. Donc il y a une marche qui aura lieu le samedi 20 novembre sur Paris, mais on aura aussi quelque chose de local, donc on va surtout vous parler de ce qui sera local. Derrière le slogan « Toutes pour une, justice pour toutes », nous soutiendrons toutes les femmes et minorités de genre qui subissent des violences et réclament justice. En France, une femme meurt tous les deux jours sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon. Au Mexique, ce sont plusieurs femmes par jour qui auraient été victimes de féminicides en 2020. Il ne s'agit pas de chiffres, il s'agit de vie humaine. Voilà, et je vais laisser Didier vous parler de l'action locale, sachant quand même que le collectif Nous Toutes, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, puisqu'elle s'était joint au collectif qui a permis la victoire pour la régularisation de la famille pakistanaise à Gaillon. Ils faisaient partie du comité de soutien.
Tout à fait. Mais juste avant de parler de donc cette actualité locale, on va entretenir encore un tout petit peu le suspense.
Bah, fais gaffe parce qu'on ne va pas déborder l'heure.
Non, tout à fait. Mais ça, moi, je voulais vous relire pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Pour tous ceux qui nous écoutent et peut-être qui nous connaissent moins bien, juste le début d'un petit communiqué qui rappelle la position d'Amnesty par rapport aux droits des femmes, des grandes lignes. Tous les êtres humains, voilà ce qu'il est dit, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Alors pourquoi parler plus spécifiquement des droits des femmes ? Parce que, contrairement aux engagements pris, aucun État n'a encore complètement traduit dans les faits ni la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ni la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, ni encore la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d'Istanbul. Ainsi, s'appuyant sur ces textes essentiels, Amnesty International s'est engagé à soutenir la lutte des femmes pour leurs droits fondamentaux dans le monde entier. Chaque jour, dans la sphère publique comme privée, des milliers de femmes et de jeunes filles sont victimes d'humiliations, de privations, de harcèlement, de viols, de violences, de féminicides, de traitements inhumains et dégradants perpétrés au nom de la tradition ou de lois injustes. Bon, je m'arrêterai là parce que le communiqué continue effectivement avec beaucoup d'autres détails.
Annonce les festivités locales.
Voilà, mais c'est pour vous dire que le 25 novembre, c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. C'était une décision de l'ONU déjà il y a quelques années. Et cette année, il y a beaucoup de rassemblements et de manifestations, principalement à l'initiative de ce collectif Nous Toutes, et qu'il va y en avoir une le jeudi 25 novembre à 18h. Sur le parvis de l'hôtel de ville à Évreux. Donc nous, on a appris très récemment cette information, mais bien évidemment, on a contacté le collectif Nous Toutes en question pour appeler tous les gens qui sont sympathisants aussi d'Amnesty International, qui sont militants, et aussi tous les gens qui nous écoutent, donc vous toutes et vous tous de l'autre côté des ondes et du micro, à vous joindre à nous donc le jeudi 25 novembre, 18h, sur le parvis de l'hôtel de ville pour manifester et témoigner contre les violences faites aux femmes. Comme tu disais effectivement, Clarlys, tout à l'heure, il y a encore plus d'une centaine de femmes en France qui viennent d'être victimes de féminicides, c'est-à-dire qu'on est toujours parti sur la même moyenne, entre guillemets, macabre. Une femme meurt sous les coups de son conjoint tous les deux jours et demi ou trois jours à peu près en France, et ça continue. Donc voilà, M. Macron avait fait sa grande cause nationale il y a deux ou trois ans.
Oh, il en avait plein des causes.
Voilà, mais on peut pas
c'est
dire...
des causes perdues.
On ne peut pas dire que la situation est vraiment changée dans le bon sens. Donc, encore une fois, on vous appelle toutes et tous à venir nous retrouver et venir surtout retrouver le collectif Nous Toutes, jeudi 25 novembre, 18h, sur le parvis de l'hôtel de ville à Évreux. Voilà. Et on publiera aussi l'info. Autres infos, alors ça, on va vous donner quand même quelques infos locales de notre actualité, nous, du groupe d'Amnesty Évreux. Donc, pour la radio... On se retrouve, nous, pour la prochaine émission d'Amnesty, le mardi 30 novembre à 19h-20h en direct sur l'antenne de Principe Actif, donc mardi 30 novembre. On a aussi, nous, une autre émission de radio dans la série Fréquences Droits Humains, dont on vous a déjà beaucoup parlé. Là, c'est beaucoup plus proche, c'est après-demain, c'est jeudi. Et c'est de 18h à 19h30 en direct depuis la Maison des Jeunes et de la Culture, près du Bel et Bas, la rue Aristide Briand. Et c'est le thème de cette émission sera les droits de contester et le droit de grève. Il y aura différentes interventions, dont des droits de secrétaires de syndicats locaux, etc. Mais enfin bon, on vous en dira pas plus. Écoutez-nous donc jeudi prochain, jeudi 18, en direct sur l'antenne de Principe Actif, entre 18h et 19h30, sur cette thématique du droit de contestation et du droit de manifester. On sera aussi présent le samedi 27, ça fait beaucoup de dates à noter, hein. Samedi 27 au Cube, on tient un stand Amnesty avec des informations et des pétitions à l'occasion du concert d'House Gang, c'est un groupe de rock, du concert d'House Gang, donc c'est le jeudi 27, 20h30 au Cube. Donc voilà, ça c'est notre actualité effectivement, et on aura une grande campagne, mais on vous en parlera beaucoup plus dans la prochaine émission d'Amnesty le 30 novembre puisqu'elle y sera consacrée, sur les 10 jours pour signer, grande campagne annuelle de mobilisation d'Amnesty autour de droits humains. Voilà, donc on rappelle le rassemblement pour le jeudi 25, c'est ça, Clarisse?
Oui.
Jeudi 25, rassemblement contre les violences faites aux femmes à l'initiative du collectif Nous Toutes. Et puis, je ne sais pas, il nous reste...
Mais c'est facile, hein. C'est le 18, le 25, c'est le ça. 27 et le 30, c'est voilà. Ça va, vous avez presque un loto. Il faut rajouter une date, celle du 5 au 12 décembre, et puis voilà, vous avez le loto complet, dates d'Amnesty.
C'est ça, exactement. Je ne sais pas, il nous reste 2-3 petites minutes pour une fois qu'on finit largement dans les temps. Je ne sais pas si tu avais encore une petite info à donner à nos auditeurs ou nos auditrices, Claire-Lise.
Je vais les déprimer, là. Je vais les déprimer.
Tu voulais dire quoi?
C'est sur la situation de familles qui se retrouvent à la rue, qui ne sont pas hébergées par le 115 parce qu'elles sont victimes d'OQTF et qu'elles ont été déboutées de l'asile, et c'est scandaleux. Et voilà, et ça continue, et on s'arrache la tête au niveau des associations locales pour essayer de trouver des solutions.
D'accord. Bon.
Mais ça mériterait une émission.
Oui, je sais bien. Moi, je vais en profiter pour vous rappeler qu'il y a énormément de choses, on s'en sert pour nos émissions, mais pas que, énormément de choses qui paraissent dans la chronique d'Amnesty International. Donc, c'est le mensuel d'Amnesty France. Vous pouvez vous y abonner. Hein, vous avez le formulaire d'abonnement, parce que ce n'est diffusé que sur abonnement. Le formulaire d'abonnement, vous l'avez sur le site d'Amnesty, amnesty.fr. qui regorge d'informations. N'hésitez pas à aller signer les pétitions qui sont en ligne, il y en a beaucoup. N'hésitez pas à aller consulter les dossiers. Je vous rappelle le dossier sur la famine à Madagascar, directement conséquente, cette famine, des bouleversements climatiques. Donc voilà, je vous rappelle quand même le titre de, si je le retrouve, le titre de ce rapport. Il sera trop tard pour nous aider quand nous serons morts. Voilà. Donc, on vous rappelle la chronique, on vous rappelle aussi l'adresse mail d'Amnesty Évreux si vous avez des informations à nous donner, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas, c'est evreux@amnestyfrance, tout attaché, Amnesty avec un Y, amnestyfrance, tout attaché.fr, evreux@amnestyfrance.fr. Et encore une fois, on compte sur vous pour nous aider, on compte sur vous pour venir à nos manifestations, on compte sur vous pour nous écouter, on compte sur vous pour être au rassemblement le 25 novembre prochain, place de l'Hôtel de Ville. Voilà, on va laisser la place à notre ami du laboratoire.
Qu'on lui laisse l'antenne.
Voilà, qui est rentré dans le studio tout à l'heure et qui prépare son émission. On lui laisse la place avec beaucoup de plaisir. Et nous, on se retrouve le 30 novembre pour l'émission Amnesty et le 18 novembre pour l'émission Fréquence Droits Humains sur les antennes de Principe Actif. Bonsoir à tout le monde.
Bonsoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.